C'est sous un beau ciel bleu que la fête de la science se poursuit. Les curieux ont pu découvrir ce matin tout l'univers marin à Lansvata grâce à des ateliers et des bibliothèques humaines. Comprenez ici des échanges avec des chercheurs autour d'un café pour parler science, mais pas uniquement. L'élu à la province sud, Naya Wateu, était l'invité d'Elisabeth Noir ce vendredi dans le magazine Transparence. L'occasion de revenir avec elle sur la visite de François-Noël Buffet qui s'est achevée hier soir, mais aussi d'évoquer les transports en commun. À l'international, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, victime d'une tentative d'assassinat. Il accuse le Hezbollah d'avoir tenté de l'assassiner et menace désormais de riposter. En métropole, les députés rejettent en commission des finances la première partie du budget 2025. Seuls les députés de gauche ont voté pour. Trop d'augmentation d'impôts pour les autres groupes. Du sport, dans ce journal, les amateurs de glisse ont rendez-vous à Païta pour montrer leurs meilleurs tricks en skateboard. Des initiations gratuites étaient proposées ce matin. Place cet après-midi aux compétitions. Bonjour à tous, bienvenue dans notre journal Info Weekend pour tout connaître de l'actualité en Calédonie, dans la région Pacifique et dans le monde. Avant de développer tous ces titres, je vous rappelle que le ministre des Outre-mer a quitté hier soir la Calédonie. François-Noël Buffet a passé 4 jours sur le territoire, au cours desquels il a multiplié les visites de terrain et les entretiens, aussi bien avec les élus calédoniens que les représentants de la société civile ou du monde associatif. Ça s'est très bien passé avec tout le monde, dans un climat de transparence et de vérité, a déclaré François-Noël Buffet, qui estime avoir rencontré des gens de bonne volonté. J'ajoute que le ministre chargé des Outre-mer était également notre invité de la matinale sur RRB vendredi. Il est revenu sur la crise insurrectionnelle, sur le soutien à l'économie et le retour du dialogue. Une interview à retrouver en audio et vidéo sur notre site internet rrb.nc. L'actualité, c'est aussi des nouvelles du jeune garçon attaqué par un requin à Puebo ce jeudi. L'adolescent de 12 ans se baignait avec des amis lorsqu'un requin l'a attaqué au niveau des membres inférieurs. Il avait rapidement été évacué au Medipol. Nous savons désormais que ses jours ne sont plus en danger. Il a malheureusement dû être amputé d'une jambe. Au Mont d'Or, un arrêté du Haut-Commissariat annonce que le dispositif à horaire pour traverser Saint-Louis est maintenu au moins jusqu'au 28 octobre. Cela faisait maintenant 2 semaines que le dispositif entre les verrous de la gendarmerie est mis en place. Les usagers peuvent traverser la zone entre 6h et 10h, puis de 14h à 18h. Depuis la reprise sous forme de convoi, quelques incidents de type caillassage et vol de voitures se sont déroulés. La route est donc toujours étroitement surveillée. En parallèle, notez que le dispositif de navette maritime reste assuré entre Nouméa et le Mont d'Or.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 12h03.
Les animaux marins à l'honneur ce matin à Lansvata. C'est dans le cadre de la fête de la science que plusieurs animations se tenaient près de la plage, Charlotte Coulson.
L'occasion d'en apprendre plus sur les requins, les dauphins ou même les acanthastères, ces petites étoiles de mer moins inoffensives qu'il n'y paraît. En bref, plein de rencontres et de partage de savoir sous un beau soleil. Aurélien Lalanne est chargé de coordination auprès du Crécica pour la fête de la science.
L'idée, c'est de sensibiliser les visiteurs à la science et surtout de partager des émotions. Donc on va vous proposer des ateliers interactifs où vous allez devoir reconnaître des sons de baleines, voir comment on peut étudier une étoile de mer qui mange du corail, reconnaître des requins. Voilà, le maître mot, c'est l'échange et le partage. Oui, on a déjà du monde sur les stands, on a déjà des inscriptions sur le vaisseau des sciences. Et puis surtout, il fait beau, il y a un tout petit peu de vent, juste ce qu'il faut. On est là pour vous.
De nombreuses activités qui prennent parfois des formes intrigantes pour les plus jeunes, mais aussi pour les adultes. On pouvait par exemple explorer une maquette de requin, observer un drôle d'animal dans un aquarium, et puis se poser autour d'un café pour échanger avec des scientifiques. Des animations notamment organisées par David Bilbo, le représentant de l'association Turtle, Carole Bernard, la directrice générale du Centre d'initiation à l'environnement, et Claire Bonneville, ingénieure en génétique à l'IRD.
La bibliothèque humaine, en fait, c'est un concept qu'on a mis en place ici en Nouvelle-Calédonie. On a fait ça fin mai, quoi, pour recréer des espaces de dialogue et de partage dans les quartiers, dans les marchés. L'idée, c'est de stimuler la conversation un petit peu improbable et inopinée entre des personnes qui ne se connaissent pas. Donc, discuter avec les personnes, 5 minutes, 20 minutes, 1 heure. En fait, on refait ce qui se passait avant sous les baignants de façon naturelle, quoi.
Donc, nous, aujourd'hui, on présente un stand sur le parc naturel de la mer de Corail. L'idée, évidemment, c'est de présenter cette grande réserve marine de Nouvelle-Calédonie et on fait un focus particulier sur les requins.
Aujourd'hui sur le stand, on fait une présentation des mammifères marins de Nouvelle-Calédonie et surtout des dauphins. Et il y a aussi un stand sur les acanthastères et l'impact des acanthastères sur le lagon calédonien. On a déjà énormément de monde, donc c'est super, ça montre que ça marche bien et les gens se font super intéressés par ces thématiques.
Une large programmation qui a réuni beaucoup de monde ce matin. Certains profitaient des jeux tandis que d'autres sont venus avec un objectif bien précis en tête.
Je suis venu me renseigner surtout sur les acanthastères. Je sens connaître un petit peu plus dessus parce que j'ai déjà un peu le topo sur les baleines à bosse et les requins. Puis surtout avoir les bonnes informations. Voilà, c'est intéressant quoi.
J'ai mis des éléments sur une grande fiche sur l'océan. Cool, j'ai placé les animaux, voilà. J'ai appris des noms et des choses que savent faire les animaux marins.
Moi, j'étais venue pour avoir des renseignements pour les études plus tard, parce que j'aimerais faire biologiste marine. Et du coup, pour savoir un peu ce qu'il faut faire comme études au lycée, tout ça. Ça a bien aidé.
Il y a des étiquettes qui décrivent ce que fait le requin, les particularités du requin, et il doit le retrouver. Voilà, il a un petit quiz. Ah, je suis ravie, c'est super. Des activités comme ça pour les enfants et les grands, il en faudrait tous les jours.
Un événement qui s'est déroulé en présence de l'ambassadeur de la fête de la science, Titouan Pouillot, arrivé en Vaha. Et puis à 10h, les intéressés de requins ont pu assister à une conférence de Claude Maillot. Le prochain rendez-vous de la fête de la science, c'est dès demain au Centre socioculturel de la Foix.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Nouméa, c'est le 100.4.
Politique, et c'est Naya Wateou, élue les loyalistes à la province sud et au congrès, qui était vendredi midi l'invitée d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Michael Juneski.
Elle faisait partie de la délégation qui avait été reçue peu avant par le ministre des Outre-mer. Elle est revenue sur cette visite de François-Noël Buffet, sur les annonces qu'il a faites et sur les messages que les loyalistes lui ont transmis.
C'était déjà dans un premier temps de faire entendre la voix des Calédoniens qui pour certains se sentent encore abandonnés. C'était important de rappeler la violence qu'il y a eu le soir de ce 13 mai et les semaines qui ont suivi. Et pour beaucoup, ce sentiment de ne pas avoir eu de réponse de la part de l'État. Important aussi pour nous de rappeler que les interlocuteurs étaient essentiels, notamment pour pouvoir sortir de cette crise que l'on rencontre. Donc la question de la sécurité était bien évidemment essentielle. Et puis parce que là aussi, c'est cette réalité qui s'impose maintenant à nous. C'est cette crise économique que l'on rencontre. Et derrière les perspectives qu'il est essentiel de pouvoir apporter aux Calédoniens. Et en ce sens, l'accompagnement de la France et le soutien de la France est essentiel dans cette démarche.
Naya Wateou, qui était au début du mois à New York, où elle est intervenue devant la 4e commission de l'ONU, elle déclare avoir voulu porter un message de vérité. Mais elle s'étonne de la composition de la délégation indépendantiste qui ne comportait pas d'élus calédoniens.
Sur la composition, donc on a bien vu des prises de parole au nom de Inat Nekanaki, donc qui est la dissidence du Sénat coutumier, deux représentants du Sénat coutumier, mais on sent bien que c'est un peu la tranche dissidente du Sénat, mais qui n'a pas encore vraiment basculé, l'avocat du Sénat coutumier qui prend la parole, et puis derrière des interventions faites par des élus outre-mer qu'on a identifiés aussi, parce que ce qu'on voit surtout émerger, c'est cette intégration dans les discussions de ce groupe d'initiative de Bakou, avec là aussi des prises de parole de la Guyane, de la Martinique. Quand on sait aujourd'hui ce qui se passe en Martinique notamment, c'est inquiétant.
Mais selon Naya Wateou, il est important que les partisans de la France s'expriment à la tribune de l'ONU parce que cela finit par avoir de l'influence auprès des Nations Unies.
Nous, on y va avec ce discours de vérité. Eux, ils vont avec un discours qui est très victimaire et qu'on considère comme étant mensonger à certains niveaux et notamment au regard des actions que peut entreprendre la France pour protéger les Calédoniens. Mais c'est important que les choses soient aussi remises dans leur contexte. Et ce travail aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il aboutit parce que derrière, je le vois au travers de ces résolutions qui tendent à expliquer la réalité, c'est-à-dire que le processus de décolonisation se passe, que décolonisation ne veut pas dire indépendance et que cette décision, elle incombe avant tout aux Calédoniens et que par trois fois cette décision, ils l'ont prise.
Dans un tout autre domaine, l'élu de la province sud, qui est aussi présidente du SMTU, a été interrogé sur les difficultés du réseau de transport en commun. L'occasion d'évoquer aussi l'augmentation du prix du billet qui a fait débat.
La question c'est, on veut continuer à avoir des bus qui roulent ou pas? Parce que c'est la réalité dans laquelle on se trouve. Je pense qu'il y a un travail qu'on n'a pas fait auparavant sur la question du prix du ticket. Et de rappeler aux gens que le ticket moyen qu'ils avaient avant 13 mai, le prix du ticket à 350 francs, pour 70% de ce prix-là, c'était les collectivités qui le payaient. Les 30% restants, c'était les usagers. Aujourd'hui, les collectivités, elles ne peuvent plus payer. Et pourtant, elles font l'effort de continuer à en prendre 50% à leur charge. Donc oui, effectivement, on demande cette contribution supplémentaire nécessaire aux usagers, mais parce qu'encore une fois, c'est ce qui fait qu'on essaie encore d'avoir des bus qui circulent. Je rappelle que cette mesure, elle est transitoire. Elle doit nous permettre derrière de continuer à assurer un service minimum, mais que derrière, il va falloir, on est déjà en train de le faire, de réfléchir au réseau qu'on va devoir mettre en place, futur réseau, dès février 2025.
Et Naya Watéou évoque l'éventualité de la mutualisation du transport en commun calédonien. Une interview qui sera rediffusée en intégralité ce soir, juste après notre édition de 17h45. Elle est également disponible en podcast, audio et vidéo sur notre site internet.
Midi et 10 minutes, première pause dans ce journal avant de voir l'actualité nationale et internationale, et notamment cette question: la Russie a-t-elle recruté des soldats nord-coréens? À tout de suite.
Attention, ça y est, la nouvelle station mobile de Magenta ouvre ses portes. Carburant de qualité, boutique, service au top. Et ce n'est pas tout. À partir du mardi 15 octobre, participez à notre grand jeu Machine à soude et votre passage en caisse. Un plein, un achat, vous êtes éligible. À vous de tenter votre chance. À gagner, des bons d'achat en carburant de 10 000 francs et plein de surprises. Ne manquez pas l'ouverture de la station mobile de Magenta et repartez peut-être gagnant. Rendez-vous dès maintenant dans votre nouvelle station. Mobile, toujours à vos côtés.
Salut voisin. Mais pourquoi tu tends ta pelouse avec ça?
Ma tondeuse marche plus. Alors pour trouver un réparateur pas trop loin d'ici, de confiance et pas trop cher, c'est galère. Hein.
Non mais bon, de là à tendre ta pelouse avec des ciseaux...
Avec Bonus Répar, remettre en état ses outils de jardin thermique, c'est moins compliqué qu'on ne le croit. Trouvez un réparateur de confiance sur irréparation.eco avec en bonus une réduction sur la facture.
Bonus Répar, c'est tout bonus.
Bonus Répar est financé par l'éco-participation versée par les adhérents à l'éco-organisme écologique.
RRB mobilisé, nous le devons à votre confiance et à votre fidélité. Toutes les équipes de Radio Rythme Bleu sont engagées à vos côtés pour vous informer, vous accompagner et vous aider dans ces temps difficiles.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite d'Info Weekend, on retrouve Léana Colombo.
Et l'actualité internationale. Les ministres de la Défense du G7 sont réunis en Italie. Ils ont réaffirmé leur soutien inébranlable à Kiev, y compris sur le plan militaire, au moment où l'armée de Volodymyr Zelensky est à la peine avant l'hiver qui s'annonce difficile. Et cette question, Mikhail Gineski, la Russie a-t-elle recruté des soldats nord-coréens?
Les services de renseignement de plusieurs pays le pensent. Si cette information se confirmait, ce serait la première fois qu'un pays tiers entrerait activement dans cette guerre. En visite à Kiev cette nuit pour nous, le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, y voit un aveu de faiblesse de la part de Moscou. Les pays du G7 qui appellent par ailleurs l'Iran à cesser de soutenir le Hamas, le Hezbollah et les Houthis. Déclaration conjointe à l'issue du sommet des ministres de la Défense, alors qu'au Proche-Orient, les tensions sont toujours très vives.
Et justement, cette nuit pour nous, un drone a été lancé depuis le Liban vers la maison de Benjamin Netanyahou à Césarée. Le Premier ministre et son épouse n'étaient pas dans leur résidence. Selon les militaires, l'attaque n'a pas fait de blessés et deux autres drones ont été interceptés. Frédéric Simon pour Europe 1.
En effet, il était un peu moins de 8 heures ce matin, heure d'Israël, lorsque le drone s'est abattu sur une habitation de la localité de Césarée, à un peu moins de 60 km au nord de Tel Aviv. C'est là que Benjamin Netanyahou dispose d'une résidence secondaire et le bureau du Premier ministre a confirmé qu'elle était bel et bien la cible du drone lancé par le Hezbollah depuis le Liban. Ni le chef du gouvernement ni son épouse Sarah n'étaient sur place, alors que le couple Netanyahou a pour habitude de passer ses samedis, jour de repos hebdomadaire en Israël, dans leur villa de Césarée. Le moment et le lieu choisi sont explicites. La milice chiite libanaise ciblait délibérément le Premier ministre israélien. Et l'inquiétude dans le pays est d'autant plus grande que l'alerte n'avait pas été déclenchée lorsque l'appareil se rapprochait de Césarée. L'incident confirme que les drones constituent le point faible de la défense antiaérienne d'Israël. Dimanche dernier, l'explosion de l'un d'entre eux sur une base militaire des environs de Haïfa avait provoqué la mort de 4 soldats. Le Hezbollah intensifie par ailleurs ses tirs de roquettes et de missiles sur le nord du pays, plus d'une centaine depuis ce matin, qui ont fait 1 mort et 10 blessés.
À noter que Benjamin Netanyahou a condamné les alliés de l'Iran qui ont, je cite, tenté de l'assassiner avec sa femme. Il ajoute que l'Iran et ses alliés paieront un prix élevé. Cette tentative d'assassinat montre le vrai visage de l'Iran, affirme de son côté le chef de la diplomatie israélienne. Un tour dans le Pacifique maintenant, les honneurs militaires pour l'arrivée du roi Charles III et de son épouse au lancement de sa tournée en Australie. Le monarque de 75 ans, atteint d'un cancer diagnostiqué il y a 8 mois, démarre sa plus grande tournée depuis qu'il a été couronné. Ce voyage vise à renforcer le prestige de la monarchie auprès d'un public australien peu intéressé. Des occasions de rencontre avec le public sont prévues avec un événement devant l'opéra de Sydney et un barbecue géant. Une tournée moins luxueuse et chargée que d'habitude en raison de l'état de santé du souverain. Une étape en Nouvelle-Zélande a été annulée et il ne restera que 6 jours à Sydney et à Canberra avant de participer à un sommet du Commonwealth au Samoa. En métropole, les députés rejettent en commission des finances la première partie du budget 2025. Il s'agit de celle consacrée aux recettes, pourtant largement modifiées par rapport au texte initial. Les députés de gauche ont voté pour cette première partie du projet de loi de finances, tandis que les autres groupes ont voté contre. Il y aurait, entre autres, trop d'impôts selon eux. Écoutez la députée Horizon, Félicie Gérard.
Nous sommes passés d'un budget de responsabilité à un texte totalement déséquilibré, portant un choc fiscal insupportable pour les particuliers et les entreprises.
Dans un communiqué publié sur X, le ministre en charge du budget, Laurent Saint-Martin, a lui aussi critiqué ces nouvelles hausses d'impôts de la Commission des finances, dénonçant un matraquage fiscal. Les débats dans l'hémicycle à partir de lundi repartiront donc du texte initial. Et des hommages et un message « Stop aux violences motorisées ». Des milliers de cyclistes étaient rassemblés partout en France, devant les mairies, après la mort d'un jeune homme de 27 ans à Paris ce mardi. Il a été écrasé à vélo par un automobiliste. Le conducteur en cause est mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire. Les associations de cyclistes demandent au gouvernement des mesures concrètes pour leur sécurité, avec notamment des aménagements. Sa disparition est une grande tristesse pour nous tous. Déchirure qui ravive une douleur intacte presque une décennie plus tard. Réaction d'Emmanuel Macron après la mort de Simon Fichy, 41 ans, rescapé des attentats de Charlie Hebdo. C'était le 7 janvier 2015. Il avait survécu avec de lourdes séquelles. Une enquête a été ouverte. Allez, midi 17, dernière page de publicité dans ce journal et un retour à l'actualité sur le territoire.
Du lundi au vendredi sur Radio Rythme Bleu, Cheyenne raconte une histoire aux tout-petits vers 19h20.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dôme, la boutique des tout-petits. Petit Dôme, c'est aussi et toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dôme, on n'hésite plus, on y va.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux. Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Info Weekend avec le reste de l'actualité en Nouvelle-Calédonie, on retrouve Léana Colombo.
Et l'actualité festive, nouvelle journée ensoleillée sur le vide-grenier du Parc Fayard. Un événement qui a attiré encore une fois les curieux, les promeneurs à la rencontre des particuliers souhaitant revendre des articles qu'ils n'utilisent plus. Le reportage de Michael Juneski.
J'ai vu des voitures.
Il y en a beaucoup là de voitures. Hein.
Oui. Oui, ça me fait plaisir. Ce que je trouve, c'est neutre. Tu trouves beaucoup de choses.
On se promène, puis en même temps, on regarde ce qu'il y a, quoi. Ça fait une petite sortie du dimanche. En plus, là, il fait beau. On en profite, quoi.
Je vois que vous avez fait des belles trouvailles.
J'ai acheté une plante, des azalées. Ça change, hein. C'est très, très bien. En plus, il fait beau.
Alors, en même temps, on fait de la marche. Ça profite de faire de la marche. Ça fait du bien. Ça nous fait déranger. Nous, on est venus de Boulou Paris. Parce qu'on a l'habitude de venir ici. Là, il y avait du monde. Mais là, il y a moins de stands. Mais c'est bien quand même. Ça nous fait rencontrer, retrouver des amis, de la famille.
Mon mari m'a fait un beau bureau, c'est devenu un débarras. Mais le bureau, il ne rentre même plus dedans. Donc maintenant, j'ai enlevé le bureau, j'ai vendu pour faire le débarras. Il y a toujours du monde et c'est familial, c'est agréable, franchement, les vide-greniers, c'est génial. On rencontre beaucoup de monde, des gens géniaux, c'est agréable de vivre comme ça. Le vivre ensemble, ça s'appelle.
Des propos recueillis par Michael Juneski, un vide-grenier organisé par l'association Dumbéa Événements. Et n'oubliez pas que le salon Nature, Maison et Déco se poursuit jusqu'à ce soir au Parc Brunelé de Nouméa. Vous avez jusqu'à 17h pour en profiter. Allez, on passe au sport, mais avant, on salue notre partenaire.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Le sport et du football à la une avec Paris qui reprend la tête de la Ligue 1, Mickaël.
Ouais, grâce à sa victoire sur Strasbourg, 4 buts à 2 et au match nul de Monaco hier contre Lille, 0 à 0. Les Parisiens repassent en tête avec un meilleur goal average à l'issue de cette 8e journée du championnat de France. Et ce, au terme d'une rencontre très animée face aux Strasbourgeois. Ouverture du score de Mayolou, puis Asensio pour doubler la mise en deuxième période. Strasbourg n'a pas abdiqué, réduisant l'écart juste avant l'heure de jeu, avant que Barcola et enfin Lee ne scellent ce succès de Paris dans la dernière demi-heure de jeu. Les autres résultats du jour, Brest et Rennes se sont quittés eux sur un score de parité à un but partout dans le derby des clubs bretons. Enfin, Lens a battu Saint-Etienne sur le score de 2 buts à 0. À venir ce soir et demain matin, les rencontres Le Havre Olympique Lyonnais, Auxerre-Reims, Toulouse qui accueillera Angers, les Nantais d'Antoine Comboiré qui feront face à Nice. Enfin, Marseille sera sur le terrain de Montpellier à une semaine du choc contre le Paris Saint-Germain.
Et faut toujours avec le Tour d'Europe des principaux clubs.
Oui, avec l'Espagne tout d'abord, où il était attendu au tournant malgré les scandales et les polémiques. Kylian Mbappé a inscrit le premier but du match du Real Madrid contre le Celta Vigo. Les Madrilènes l'emportent 2 buts à 1. Demain, le FC Barcelone devra tenir la cadence en recevant le FC Séville. En Angleterre, une surprise de taille pour les Gunners. Arsenal s'est incliné à Bournemouth 2 à 0. Ce soir, Manchester City affrontera Wolverhampton, tandis que Chelsea croisera le fer avec les Reds de Liverpool, leader de la Première Ligue. En Allemagne, le Bayern Munich l'a emporté sur Stuttgart 4 buts à 0 pour rester leader de la Bundesliga. Devant Leipzig, tombeur de Mayence 2 à 0. Le Bayer Leverkusen s'est imposé sur Francfort 2 buts à 1. Enfin, en Italie, la Juventus de Turin l'a emporté sur la Lazio de Rome 1 à 0. Le Milan AC s'est imposé sur Udinese 1-0. Le choc de ce lundi opposera l'AS Rome à l'Inter Milan, 3e du Calcio.
Et le rugby avec la 7e journée du top 14.
Et l'Aviron Bayonnais qui s'est imposé sur le Racing 92, 32 à 15. De son côté, Clermont l'a emporté sur le promu breton Vannes, 55 à 33. Victoire encore de Castres face au Stade Français, 35 à 13. Le RC Toulon a battu Montpellier, 30 à 17. Et puis une victoire sur le fil, cette fois de Perpignan face à Lyon, 29 à 26. Enfin, le dernier match du jour avec une victoire du Stade Toulousain à l'extérieur sur le terrain de la section paloise 22 à 14 avec un Antoine Dupont très en forme. Le Stade Toulousain qui est repassé provisoirement en tête du top 14 en attendant le choc de demain entre l'UBB et La Rochelle.
Et les sports mécaniques avec tout d'abord le championnat du monde des rallyes. Le titre mondial pourrait se jouer ce week-end.
Ouais, Sébastien Ogier, le Français, est pour le moment leader au rallye d'Europe centrale. Après 14 des 18 spéciales disputées, il devance l'Estonien Ottanak et le Belge Thierry Neuville est quatrième. Il devra profiter de circonstances très favorables pour être sacré champion du monde demain, et ce pour la première fois de sa carrière. Et puis, en MotoGP, Jorge Martin a remporté la sprint race du Grand Prix d'Australie. L'Espagnol du team Pramac a mené la course de bout en bout pour terminer devant son compatriote Marc Marquez. Côté français, Joan Zarco a chuté au sixième tour. Il a donc dû abandonner. Fabio Quartararo, l'autre français, a quant à lui pris la 11e place. Le Grand Prix d'Australie de MotoGP sera à suivre cet après-midi. Départ à 14h, heure de Nouméa.
Allez, on passe à la F1.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Le rendez-vous du week-end, c'est le Grand Prix des Amériques.
La Sprint Race a permis à Max Verstappen de décrocher des points précieux dans l'optique du titre 2024, même si par la suite, c'est Lando Norris, troisième de cette course sprint, qui a signé la pole position à l'issue des qualifs. Il partira donc en tête sur la grille de départ devant le pilote Red Bull. Les Ferrari n'ont pu que regarder ce duel aux avant-postes lors des qualifications. Carlos Sainz et Charles Leclerc se classent respectivement troisième et quatrième sur la grille de départ. On écoute Charles Leclerc.
Oh, c'était pas une qualif facile. On a eu malheureusement les difficultés qu'on attendait en qualif. Dans tout le premier secteur, c'était vraiment très 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 compliqué, très inconstant. Mais bon, on savait qu'on allait avoir le problème. Il fallait qu'on survive cette qualif et qu'on se concentre sur demain. C'est ce qu'on a fait. 3 et 4, c'est pas si mal. Il y avait peut-être un petit peu mieux à aller chercher sur le dernier tour. Mais bon, c'est comme ça. Dans tous les cas, je pense que ça aurait été juste avec Carlos et moi que ça serait joué, mais les deux devant étaient trop rapides.
Une belle performance côté français pour Pierre Gasly qui a conduit son Alpine Renault jusqu'à la 7e position. Esteban Ocon a terminé quant à lui ses qualifications avec le 13e temps de référence. Le Grand Prix des Amériques sera à suivre demain, départ à 6h, heure de Nouméa.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainé par Shell et Pacific. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2024. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Le sport côté calédonien et tout d'abord cette bonne nouvelle à La Réunion pour la trailleuse Leslie Nowicki. La calédonienne a participé au trail de Bourbon en marge de la Diagonale des Fous. 100 km à parcourir dont 6120 mètres de dénivelé positif, rien que ça. Et Leslie Nowicki est arrivée première des féminines en 16h et 39 minutes de course. Elle se classe 14e au classement général. La seconde féminine, la réunionnaise Marion Zaratski, arrive 40 minutes plus tard et se classe quant à elle 21e. Concernant le classement général, c'est Louison Coiffé qui s'impose sur l'édition 2024 du Trail de Bourbon, avec plus d'une heure d'avance sur ses concurrents en 12h et 27 minutes. Sur le territoire, on parle sport de glisse avec le Sky Day de Païta, Mickaël.
Oui, un événement à la fois pour permettre aux compétiteurs de s'affronter, mais aussi aux plus jeunes et aux débutants d'avoir des initiations au skateboard, le tout avec des encadrants. Ceux qui s'y sont essayés ce matin étaient ravis de participer.
La dernière fois, j'ai essayé d'en faire, je me suis fait très très mal.
Là, il y a des gens pour t'encadrer, ça te rassure ?
Oui.
Si tu y retournes, c'est que tu as envie d'en faire, je suppose.
Le skate, c'est que on peut facilement s'entraîner, on peut aller partout avec le skate. Ça s'emporte facilement dans n'importe quoi. C'est pratique comme ça.
T'en as déjà fait un peu avant, jamais ?
Juste un tout petit peu. C'est trop bien. C'est leur figure, comment ils font. Comment ils roulent, c'est trop bien.
C'est quoi qui te plaît dans le skate ?
Le fait d'être libre.
J'aime bien le fait de rouler et puis faire des tricks. Enfin, c'est libre en fait comme sport, j'aime bien. C'est une des premières fois qu'on a une asso de skate qui fait ça, donc ouais, c'est cool. Il manque des... y a pas assez d'événements, je trouve.
Quand vous voyez certains qui font des figures, vous en pensez quoi ?
Ah ben c'est impressionnant. Très impressionnant.
Le skate qui attire de nouveaux pratiquants, notamment après être devenu un sport olympique lors des JO de Paris 2024. L'association Tropical Shredder avait à cœur de proposer ce jour dédié au skateboard avec le programme le plus large possible. Sabrine Salley est le président du club.
Des initiations en tout genre sur tout le parc de Païta, donc avec beaucoup de modules et de liberté pour les apprentis. 14h, début de la compétition, pour 2h de spectacle, jusqu'à 16h, 16h30.
Un événement 100% skate, c'était très attendu.
Très attendu, pour nous aussi c'est une première en termes d'organisation, donc oui, très content de voir que la ville de Païta nous a suivis dans ce projet et nous a équipés comme il fallait. Effectivement, on est à fond pour pouvoir accueillir le plus de gens possible, que la journée se passe bien.
Surtout, c'est l'occasion de pratiquer en toute sécurité.
Très important la sécurité, on met beaucoup en avant cet aspect de sécurité, donc on équipe nos élèves comme il faut pour qu'ils soient en sécurité. Et on le répète, la sécurité est importante. Pour débuter en sécurité, le mieux c'est de se protéger avec les protections adéquates et bien entouré avec des initiateurs pour vous guider dans ce début de la pratique du skate.
Et cet après-midi, une dizaine de compétiteurs seront de la partie pour la compétition qui promet d'être spectaculaire. L'association Tropical Shredder qui invite le grand public à guetter de près les prochains rendez-vous à venir pour le skateboard.
Et pour terminer ce journal, on passe en revue le reste des résultats sportifs.
Du football, le coup d'envoi hier de la RCP Cup pour les clubs du Nord. Point Dimier qui a battu Riwank sur le score de 6 buts à 1. Yengensport qui s'est imposé face à l'AS Watiwe 7 buts à 4. Le trail de Nessadju, ça se passait à Bouraille. 360 personnes qui étaient au départ sur le parcours phare de 12 km. Jérémy Marie l'a emporté devant Antoine Barguin et Abdelkader Djebali. Claire Jacquin a terminé meilleure féminine à la 6e place au classement scratch. Il y avait également du touch rugby hier, un tournoi open organisé par l'Olympique Nouméa au stade de Sainte-Marie avec 10 équipes qui étaient réunies sur les terrains de l'Olympique. Et puis, au club de tennis du Receiving, le tournoi de padel de l'association Hope était organisé hier dans le cadre d'Octobre Rose sur les structures qu'avait mises en place Catherine Bonnet, l'ancienne présidente de l'association. 28 équipes étaient en lice pour soutenir la bonne cause. Dany Devaux, l'organisatrice de cet événement.
On a mis en place cette journée récréative là pour relancer un petit peu l'association qui était en sommeil. Donc là, c'est une journée sport. Padel et tennis. 28 participants, une majorité de femmes, on a 3 hommes. J'aurais pu en prendre beaucoup plus, hein, mais voilà, on n'a que 3 terrains pour jouer. Une très très bonne ambiance parce que c'est des sportives avec une bonne mentalité de sportive. Catherine Bonnet avait créé ce terrain de padel rose là. Et il faut savoir que tout le mois d'octobre, les joueurs qui louent ce terrain, le club reverse 50% des réservations à l'association.
L'opération qui se déroulait toute la journée de ce samedi afin d'apporter des dons à l'association Hope.